Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et cette semaine, nous sommes dans le cadre de la troisième édition de la Nuit des idées. Et c'est avec plaisir que je reçois le ministre, Madame Agnès Buzyn, pour parler dans le thématique face au présent de quelques aspects de la médecine en France. Alors, nous sommes ici pour aborder, pas toutes les questions médicales bien entendu, mais en tout cas je profite de cette occasion pour aborder un grand chapitre autour de la reproduction humaine, qui est, comme vous le savez, ma spécialité et qui va être la vôtre puisque vous allez être en charge, si j'ai bien compris, du projet de loi qui va être un jour déposé, bientôt j'espère. Et nous aborderons aussi sur le projet santé de réforme que nous allons aborder par quelques points parce que nous ne pourrons pas tout voir, le plan médecine 2022. On part tous du constat que nous avons une belle médecine en France. Et je dois dire qu'en tant que producteur de cette émission en France Culture, j'ai eu l'occasion d'inviter des grands noms de la médecine française sortis de ma propre spécialité. J'ai vu avec quel talent il y a des courageux qui n'arrêtent pas d'innover, de vouloir comprendre le corps humain, sa psychologie, etc. C'est donc vraiment, nous avons des grands talents et en même temps, on sent qu'on est à une étape, et qu'on a besoin de s'adapter, à notre époque et aussi de permettre encore d'aller plus loin, puisque c'est toujours sans fin, l'état de santé de notre population. Alors, vous avez eu plusieurs responsabilités institutionnelles, je ne vais pas revenir dessus, et je vais centrer donc sur la loi de bioéthique. Il se trouve que le Comité national d'éthique a remis son rapport en juin 2018, a donné son avis lui-même, le Conseil d'État en juillet 18, que l'Académie de médecine et d'autres groupements ont donné aussi leur avis. Et donc, où est-ce qu'on en est dans la procédure parlementaire? Qui dirige et qui va décider? Alors, avant d'aller sur le contenu. Hein.
Alors d'abord, vous avez raison, beaucoup d'institutions ont donné un avis. Le Conseil d'État a un avis juridique, le Conseil consultatif national d'éthique un avis personnel, mais aussi un rapport issu des états généraux de la bioéthique qui ont eu lieu dans les régions. Nous avons eu un rapport parlementaire de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, l'OPECS. Nous avons une mission parlementaire qui est aussi en train de travailler sur le sujet. Et en réalité, ces avis sont parfois concordants et parfois divergents. Et donc, nous avons réellement à prendre des décisions sur les mesures que nous allons mettre et la façon dont nous allons écrire la loi. Aujourd'hui, mes services travaillent à la rédaction des articles avec plusieurs hypothèses sur lesquelles je souhaiterais continuer à travailler avec les parlementaires. Les parlementaires sont les représentants de la nation. Je pense qu'il est important, une fois que ces états généraux de la bioéthique ont fait parler les citoyens, que les parlementaires se saisissent du sujet. Et un peu au-delà, je dirais, des parlementaires qui, pour l'instant, ont contribué au rapport de l'OPECS ou à la mission parlementaire, de façon à ce que les problématiques diffusent au sein du Parlement, parce qu'elles sont complexes. Elles nécessitent un temps d'appropriation, de façon à pouvoir élaborer une réponse que j'espère la plus consensuelle possible. Mais si on n'a pas ce temps d'appropriation, ce temps de discussion, je pense qu'il sera difficile dans un débat parlementaire, au moment de l'examen de la loi, d'arbitrer. Et donc, aujourd'hui, je suis en train d'organiser un travail avec l'Assemblée nationale et avec les sénateurs qui va me permettre de travailler avec eux les différents articles qui me posent encore des problèmes d'arbitrage. La loi va être déposée dans le courant du printemps au Conseil d'État et présentée au Conseil des ministres aussi dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent. Mais disons qu'elle est pratiquement rédigée, mais je veux faire ce travail encore de discussion avec les parlementaires intéressés le plus largement possible.
Je crois que vous avez raison, parce que la complexité, on la voit, des fois le diable est dans les détails. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai eu dans ma carrière à m'affronter par exemple à des contradictions quand il s'agissait de parler, on va parler un peu technique, là, de par exemple la congélation ovocytaire, on avait une opposition parce que c'était considéré comme de la recherche. Il a fallu attendre la loi de 2011 pour que, même dans le texte de loi, on parle d'une méthode de conservation, ce qui est quand même bizarre, parce que la loi, c'est plutôt général, c'est pas telle ou telle technique qui peut changer. Alors, je voudrais venir peut-être sur un plan médicale et biologique d'abord. Parce qu'on parle beaucoup, et on va en parler bien sûr, du buzz, de l'extension aux femmes seules ou aux femmes en couple. Moi, ce qui me soucie en tant que médecin, c'est une meilleure efficacité. Une meilleure efficacité parce que si on étend pour avoir plus de gens qui y participent ou des catégories différentes, mais avec des résultats qui restent modestes par rapport à ce qu'on voudrait, on n'a pas atteint la chose. Donc, c'est-à-dire que prévention, recherche sont à l'ordre du jour et doivent pas être masquées par le débat sociétal qui est bien sûr important. Et en particulier, tout ce qui tourne autour de la recherche sur l'embryon, qui a été un thème extrêmement sensible depuis 40 ans, depuis le début de la progression médicalement assistée. Et nous, nous sommes confrontés, en tant que médecins et biologistes, au fait que 60% des embryons qui sont constitués au laboratoire après la rencontre des gamètes d'un couple ne vont pas se développer. Et 80% dès qu'on atteint plus de 40 ans, 41 ans. Or, nous sommes, comme vous le savez, dans cette phase de demande d'enfants. Donc, en un mot, on a le sentiment de faire de la mauvaise médecine. Parce que on remet des embryons dont on n'a pas du tout la moindre idée de qu'est-ce qu'ils vont devenir, si ça vaut le coup, de les congeler, d'attendre et de les remettre, voilà. Donc on a l'impression de maltraiter les femmes et les couples. Pour une fois, c'est pas que les femmes, c'est les couples qui sont maltraités. Parce qu'on croise les doigts, c'est pas tout à fait un acte médical de croiser les doigts.
Alors, il y a dans la loi de bioéthique plusieurs articles qui sont destinés à encadrer, élargir ou encadrer d'ailleurs, la recherche sur l'embryon. Ces articles de loi seront défendus par Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, puisque ce sont des articles sur la recherche sur l'embryon. De la même façon, tous les articles sur la filiation seront défendus par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Et donc, nous n'avons pas effectivement traité dans le même paquet d'articles, si je puis dire, la PMA pour toutes, comme on le dit, c'est-à-dire l'ouverture des droits à la procréation médicale assistée aux femmes, aux couples de femmes ou aux femmes seules, et la question de la recherche sur l'embryon, car en fait, il s'agit de sujets différents, conceptuellement, techniquement, et donc la PMA fera l'objet d'un article à part, et découle de la PMA, et donc de l'ouverture des droits pour les femmes, des articles sur à la fois la filiation, sur l'accès aux origines, puisque la question se pose de savoir si les donneurs de gamètes doivent être accessibles aux enfants nés de PMA pour qu'ils puissent construire leur identité. Et donc c'est un paquet d'articles autour de la procréation médicale assistée qui, avec l'ouverture des droits, pose la question du donneur de gamètes et de son accessibilité. Toutes les questions de recherche sur l'embryon sont traitées dans la loi, mais sur un volet recherche totalement indépendant, parce qu'en fait, il pourrait n'y avoir aucun nouveau droit sur la PMA, et les questions de recherche resteraient d'actualité pour améliorer l'efficience des techniques de procréation. Donc, nous avons sciemment totalement séparé ces deux questions.
Juste un point, parce que quand on parle de la recherche sur l'embryon, il y a deux grandes catégories. Il y a une recherche qui peut se faire en particulier autour des cellules souches embryonnaires, ou simplement de la compréhension. C'est un point de recherche, véritablement, qui pose des problèmes éthiques et des problèmes de réalisation. Et puis, il y a quelque chose qui va tendre à mieux comprendre la situation, le potentiel de développement de l'embryon que l'on va remettre. Parce que l'histoire qu'il y a eu en 2013, c'est qu'on a autorisé une certaine forme de recherche, mais on ne devait pas, dans cette recherche-là, retransférer les embryons. Or, ce que nous souhaitons, en tant que médecins et biologistes, et je parle au nom de 200 médecins et biologistes qui ont signé un manifeste allant dans ce sens, c'est pouvoir avoir accès à la situation embryonnaire. Ça sert à pas grand-chose, si c'est pas pour dire, c'est délétère, de transférer un embryon dont on sait qu'il va faire une fausse couche.
Alors, vous le savez, c'est un sujet éminemment polémique. Et ça ne sera pas rien d'aborder ces sujets au Parlement ou au Sénat, notamment parce que la compréhension de ce qu'est un embryon, en tous les cas dans l'inconscient collectif, ne correspond pas à ce que vous appelez, vous, médecin-chercheur, un embryon. Ça peut être un amas de cellules. On voit bien que dans l'inconscient collectif, le fait d'utiliser le mot embryon va déjà générer une forme d'inquiétude qui peut quelque part freiner la recherche. Donc nous travaillons aujourd'hui avec Frédéric Vidal à la fois sur des articles qui concernent les cellules souches embryonnaires, qui sont des cellules en culture, maintenues en culture pendant des années et qui sont utiles évidemment à la compréhension de la naissance des tissus, mais aussi à des articles sur la recherche sur ce qu'on appelle l'embryon, avec la nécessité de bien expliquer aujourd'hui ce que nous sommes en droit de faire ou de ne pas faire et éviter l'inquiétude que provoque dans la société le fait qu'on pourrait manipuler des embryons à des fins de recherche. Et donc, il est très important de clarifier cela et la loi le fera. L'idée est vraiment que la loi soit une loi qui permette de bien comprendre à la fois les concepts et bien mettre les limites aussi qui protègent quelque part la société de cette inquiétude que nous aurions de manipulation génétique de l'embryon. Nous l'avons vu avec l'histoire du chercheur chinois.
Bien sûr.
Nous sommes face maintenant à des techniques accessibles. Je ne sais pas s'il l'a réellement fait ou pas, c'est-à-dire de manipuler génétiquement un embryon, mais nous voyons bien là les limites, ce qu'une société peut accepter ou pas, et il est clair que la société française, en aucun cas, ne pourrait accepter de telles pratiques. Donc, cette loi va encadrer la recherche, elle va peut-être faciliter un certain nombre d'expérimentations, à condition que ça ne heurte pas le public en termes de compréhension de ce qu'est un embryon.
Il faut reprendre l'objectif. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif de compréhension et éventuellement les modifications génétiques que vous évoquez, qui, elles, sont lourdes, peuvent être lourdes de conséquences et méritent une vigilance extrême. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il faut le faire dans certaines conditions et en termes de recherche. Et puis, il y a le courant.
Mais je vais vous dire ce qui est très intéressant dans cette loi, pour aller au-delà de la recherche en embryon, c'est que dans les interlocuteurs que j'ai en face de moi, je sens vraiment deux religions, si je puis dire. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, mais deux façons de se positionner. Certains disent ces techniques se font ailleurs, et donc ça ne sert à rien de les encadrer en France, puisque les gens pourront faire ailleurs. Et donc, libéralisons la PMA, la congélation d'ovocytes, les tests génétiques. Et donc, ça concerne en fait toutes les mesures de la loi de bioéthique. Certains sont dans l'esprit, à partir du moment où on est capable de le faire, à partir du moment où ça se fait ailleurs, ça ne sert à rien en France de fixer des règles trop strictes puisque les gens pourront les détourner. Et à l'inverse, une grande partie de mes interlocuteurs disent aussi, non, en France, nous souhaitons garder telle limite indépendamment de la possibilité de faire une technique ou indépendamment du fait qu'elles se font ailleurs. Et là, je vois bien qu'il va falloir choisir clairement quelle est la position française. Nous avons des lois de bioéthique, on le voit bien, qui sont quand même quelque part plus rigides que celles des différents pays européens. Et je pense qu'on peut s'en satisfaire puisque ça correspond à la culture française et ça correspond à notre façon de penser. Et là, nous allons avoir vraiment deux politiques contraires, deux oppositions fondamentales qui sont ceux qui veulent libéraliser parce que c'est faisable, à l'instar de ce qui peut se faire en Belgique ou en Espagne, ou au contraire ceux qui veulent continuer à encadrer très strictement pour revendiquer quelque part une exception française ou une vision française de la l'éthique médicale et de recherche. Et je dirais que ça dépasse largement les questions purement de recherche. C'est vrai pour toutes les mesures qui vont être proposées dans la loi de bioéthique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion et de religion, comme vous dites, quelle qu'elle soit, même idéologique, et qu'il faut revenir peut-être justement aux situations du réel, de ce que veulent les gens qui viennent pour un projet d'enfant et de ce qu'on leur offre. Et dans ce que nous pouvons faire, être délétère ou de pas être délétère. Donc effectivement, je crois qu'indépendamment de ce qui se fait, beaucoup de choses se font, hein. La peine de mort se fait pas en France, elle se fait ailleurs, etc., etc. Donc on peut avoir une réflexion sur le territoire hexagonal. Encore faut-il avoir des points de référence. Donc là, j'insistais sur ce point parce que vous savez que l'accès à la génétique de l'embryon, dans un but simplement de reconnaître ceux qui sont capables de se développer ou pas, n'est pas autorisé en France, ce qui nous amène à réaliser des actes inutiles et des espoirs qui ne seront pas satisfaits, même si techniquement tout n'est pas résolu, c'est pas aussi simple que ça, etc. Mais au moins qu'on ait la possibilité d'avancer et de renseigner le couple sur son véritable potentiel. Ça sert à rien d'attendre pendant un an avec 10 transferts d'embryons si aucun n'est destiné à se développer. Voilà.
C'est une question qui est évidemment abordée dans la loi de bioéthique. Donc vous posez la question de faire des tests génétiques avant l'implantation pour juger de la capacité de l'embryon à se développer. Et aujourd'hui, très peu de tests sont autorisés, extrêmement peu. Et donc vous souhaiteriez, ou certains chercheurs souhaitent élargir la batterie de tests génétiques proposés aux patients avant la réimplantation pour maximiser les chances de prise de l'embryon et de grossesse. La question qui va se poser, c'est quelles limites nous fixons à ces tests génétiques ? Car en réalité, la limite n'est pas formelle. Il n'y a pas trois tests génétiques dont on est certain à 100% qu'ils sont suffisants pour assurer la vie de l'embryon et de la grossesse. Et donc, en réalité, très rapidement, ces tests génétiques peuvent glisser vers des tests génétiques à la recherche de maladies, dont on sait qu'elles peuvent aussi réduire les chances de grossesse lorsque l'enfant en est atteint. Et donc, la question n'est pas tant de dire est-ce qu'on élargit les tests, mais plutôt de fixer la limite. Quels tests sont
exactement
accessibles ou pas ?
Qu'est-ce qu'on veut ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut savoir simplement s'il y a un potentiel de développement ou si on veut aller plus loin et savoir quelle ou telle caractéristique.
Mais c'est ça là le problème aujourd'hui. Et c'est là aujourd'hui où nous savons que les tests génétiques peuvent, dans certains cas, apporter des certitudes d'informations certaines qu'un enfant est malade. Au contraire, d'autres vont apporter simplement l'hypothèse que l'enfant pourrait développer une maladie. Et donc, jusqu'où autorisons-nous ces tests qui apportent soit une certitude, soit une probabilité? Autorisons-nous ces tests avant la réimplantation d'un embryon? Et si nous l'acceptons pour un embryon que nous réimplantons, la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que des couples qui ne passent pas par la procréation médicale assistée pourraient aussi avoir accès à des tests génétiques pour être certains d'avoir un embryon sain? Ce que va trancher la loi, c'est jusqu'où acceptons-nous, en fait, de réaliser des tests génétiques en pré-implantatoire ou en prénatal pour assurer quelque part à un couple un enfant sain. Et c'est une question fondamentale. Moi, je trouve que ces questions-là sont quelque part beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus impactantes pour la société française que la question de la PMA dont tout le monde parle. L'autorisation ou le droit à la PMA est un droit qui va toucher quelques milliers de femmes. C'est une question sociétale, mais ça n'est pas une question...
C'est mon sentiment, oui.
Voilà, qui ne va bouleverser les équilibres ou la façon de penser d'une société, alors que je considère que les questions génétiques aujourd'hui qui sont posées dans la loi sont beaucoup plus importantes à débattre parce qu'elles peuvent avoir des conséquences à long terme sur la façon dont on voit l'enfant. Le désir des parents d'avoir un enfant sain, entre guillemets, le droit à la différence ou pas, jusqu'où acceptons-nous le risque d'avoir un enfant différent, comment une société l'accepte. Et je trouve que ces questions-là sont mille fois plus importantes à débattre. Et je suis heureuse que vous m'en parliez aujourd'hui, parce que quand on m'interroge sur la loi de bioéthique, je n'entends parler que du droit à la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Et je trouve que ça réduit, l'intérêt de cette loi.
C'est-à-dire que la préoccupation de bien faire et donc d'avoir une meilleure efficacité, elle est là. Quelles méthodes pouvons-nous utiliser ? Il y a des méthodes qui sont établies, par exemple, puisqu'on les réalise, par exemple, dans le cadre d'une diagnostic préimplantatoire, comme vous le savez, mais je vous dis juste, peut-être vous ne savez pas, il faut 2 ans d'attente, quand même, pour un couple à Paris, qui a besoin d'un diagnostic préimplantatoire parce qu'il a une maladie à risque d'être transmis. Donc il y a problème quand même là-dessus. Mais là où je vous rejoins tout à fait sur les préoccupations, c'est qu'on ne peut pas parler du préimplantatoire sans parler de l'anténatal en général. Or, nous allons avoir à aborder les problèmes de conseil génétique, les problèmes de diagnostic de toute grossesse déjà. Là, pourquoi on se bat là-dessus ? Parce que quelque part, 800 000 femmes qui sont enceintes par an, elles ont le droit d'avoir un test génétique, puisqu'elle va avoir une prise de sang, une échographie à 12 semaines, pour savoir comment se développe génétiquement, chromosomiquement, leur embryon. Donc, plutôt que d'attendre cette période-là, on peut se dire que le même test, pas plus, pas moins, on pourrait le faire avant.
Ça n'est pas la même chose, monsieur.
Non, je suis d'accord.
Je pense que c'est important pour les auditeurs de bien comprendre le débat, parce que aujourd'hui, effectivement, nous proposons à des femmes un diagnostic prénatal, donc c'est pas avant la grossesse, mais c'est pendant la grossesse, avant la naissance, pour par exemple repérer la trisomie 21. Ensuite, les familles ont le choix. Les couples ont le choix de garder l'enfant ou de ne pas garder l'enfant. Ce que permettrait une ouverture large des tests génétiques à tous les couples en désir d'enfant, ce serait de trier ou de choisir en amont, à partir du moment où les gens feraient le test, évidemment, c'est qu'ils souhaitent un enfant, entre guillemets, sain, un enfant parfait, ça veut dire quelque part qu'on autorise la société, on a une dérive potentielle de la société qui dit nous favorisons le fait que tous les couples aient forcément un enfant dénué de toute anomalie génétique. La stratégie que nous avons notamment avec Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, qui est la volonté d'avoir une société inclusive, qui reconnaît la différence, qui reconnaît l'apport de la différence dans une société développée, c'est un retour en arrière quelque part en disant non, nous n'acceptons plus aucune différence, nous souhaitons une société avec des enfants non malades. Et je trouve que c'est vraiment un débat que nous devons avoir tous ensemble. Ça n'est pas un débat de généticien, c'est un débat sociétal qui, pour moi, est vraiment, je pense, nodal. Il est le plus important dans cette loi de bioéthique. Je trouve que c'est le débat de société que nous devons avoir tous ensemble, et personne n'a en tête ce que nous pourrions proposer comme type de société avec ces tests génétiques pré-implantatoires ou pré-conceptuels qui pourraient dire à la société française, en fait, vous avez le droit d'avoir un enfant sain. Jusqu'où allons-nous? Et je crois que là, c'est pour ça que je souhaite un débat avec les sénateurs et avec les députés. C'est que je crois que tout le monde a en tête la PMA, la congélation d'ovocytes. Peu de gens comprennent ce qu'apporte la génétique et les tests de génétique. Et donc, ça n'est pas un débat de spécialistes pour moi. C'est vraiment un débat de société.
Écoutez, je crois que vous posez excellemment bien les problèmes, les réflexions. Elles sont difficiles parce que de plus en plus nous allons avoir accès au génome, effectivement, du petit qui est en train de se développer dans le corps de sa mère, tant qu'il y a un corps de la mère, hein, avant que ce soit ex-utéro. Et donc il y a effectivement, on a à se confronter à ce genre de limites ou d'informations que l'on va avoir. Cependant, il est vrai que on est quand même face à des complexités. Vous connaissez plusieurs cas qu'il y a eu où, après avoir fait un diagnostic d'une maladie, par exemple, d'un risque de transmission d'une mucoviscidose, on remplace l'embryon se développe et on s'aperçoit que c'est une trisomie 21. Est-ce que ça veut dire que sur toute anomalie, d'ailleurs, vous employez le mot enfant parfait ou enfant qui sain. Je crois que là aussi,
c'est pour simplifier.
Oui, bien entendu. Mais je veux dire, c'est juste puisqu'on est dans les thématiques. Non, c'est un enfant capable, qui a la capacité de se développer. Après, on peut plus intervenir parce que là, je veux dire, il y a 5000 maladies génétiques et puis il y a bien autre chose que la génétique qui peut altérer le développement. Donc, on va pas résoudre tous les problèmes, mais on va pas aller vers une société d'enfants parfaits justement. Mais par contre, on peut essayer d'éviter les grandes catastrophes. Avec, je crois que vous avez très bien posé les termes du débat, ce qui va se passer effectivement en pré-implantatoire va se passer en post-implantatoire, ou se passe déjà en post-implantatoire. L'analyse du génome peut se faire chez toute femme enceinte, et déjà on a des formes de dépistage, et ça pose effectivement les limites en tous les cas. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça, pour qu'on ait un peu le temps de parler d'autre chose que de l'extension des autres thèmes sur lesquels on peut, à mon avis, presque se retrouver facilement. Un petit peu de musique pour qu'on reprenne nos esprits.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture et après cette musique de Bach, nous revenons aux thématiques de la loi de bioéthique de la PMA avec la ministre Madame Agnès Buzyn. Et nous venons donc de parler de la recherche sur l'embryon, de l'analyse de l'embryon, d'éviter les fausses couches et les transferts d'embryons pour rien. Avant de débattre de l'extension éventuelle, faut-il offrir un taux de succès plus élevé et donc développer la recherche, la prévention. Vous avez employé le mot qui est plus par commodité, bien sûr, d'enfant parfait, la recherche de l'enfant parfait, la recherche de l'enfant à tout prix. Et moi, c'est une question que je me pose actuellement. c'est le remboursement. Parce que c'était excellent, il y a 40 ans qu'on a démarré, on a proposé, en France, c'était le seul pays qui proposait 4 tentatives de remboursement au couple. Aujourd'hui, bizarrement, c'est devenu un argument pour le droit à l'enfant. C'est-à-dire que des fois, nous sommes en confrontation avec des couples qui ont quasiment pas de chance, de possibilité en tous les cas, de concevoir, mais parce qu'ils y ont droit, demandent quand même d'y participer. Et je me demande si on ne devrait pas avoir une réflexion sur peut-être, comme pour d'autres aspects de la médecine, hein, qu'elle soit la chirurgie esthétique, etc., etc., à une participation, je dis bien une participation, à partir de 2 tentatives qui seraient, elles, remboursées. Ensuite, si on continue, je dirais, d'avoir une participation du couple et qui, cette participation, permettrait d'alimenter un fonds de recherche.
C'est une proposition qui ne m'a jamais été faite, donc je l'entends et nous allons l'instruire. Nous allons l'instruire, comme on dit classiquement. Il est vrai aujourd'hui qu'en France, quand on ouvre un droit à une technique médicale, c'est que l'on considère qu'elle est validée. Et nous avons un pays qui est très attaché à la notion d'égalité. Ça ne vous a pas échappé. Et il est évident que ouvrir un droit sans que certaines parties de la population puissent y accéder pour des questions financières n'est pas possible. Mon sentiment, c'est que à partir du moment où une nouvelle technique est possible, il faut que tout le monde puisse y accéder. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le seul frein de certaines femmes, notamment à l'accès à la PMA, est un frein financier, puisque toutes celles qui ont les moyens peuvent tout à fait faire une PMA en Belgique ou dans d'autres pays. Donc, si nous n'offrons pas quelque part la possibilité d'avoir accès à une forme de remboursement ou une partie de remboursement, c'est un droit formel, mais ça n'est pas un droit réel. Et donc ça, je crois que ça va être compliqué. Par contre, quelle forme peut prendre cet accès au droit et ce remboursement, tout ça fera l'objet de débats certainement au Parlement. Je n'ai pas eu l'occasion encore de discuter de ce point-là avec les parlementaires qui vont m'aider évidemment à construire cette loi. Mais je crois que c'est difficile en tous les cas d'envisager qu'il n'y a pas une forme de prise en charge.
On peut la résoudre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une véritable difficulté, comme il y en a une pour un certain nombre de gens, il peut y avoir une aide exceptionnelle. Mmh. Mais il y a à l'inverse, quand je vois le nombre de gens qui se déplacent à l'étranger, on va en parler peut-être tout à l'heure, sur d'autres thématiques comme le don d'ovocytes, etc., faut bien dire que voilà, il y a des gens qui même seraient heureux de pouvoir participer à ce fonds de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a à moduler, il n'y a pas à interdire à des gens d'avoir l'accès, il y a peut-être à moduler en fonction de leurs possibilités. En tous les cas, moi je suis frappé par le fait que ça renforce, si vous voulez, cette notion de droit à l'enfant. Vous voyez?
Et on est confronté
à ça.
Bien,
voilà, c'était un
détail. Non, mais je crois que tout cela va mériter évidemment des discussions. Il y aura certainement des discussions très intenses avec la parlementaire sur la question du remboursement, mais pas seulement de la procréation médicale assistée. Si on ouvre le droit à la congélation d'ovocytes, la question va être encore plus prégnante, parce que procréation médicale assistée pour les couples de femmes, ça va être quelques milliers de femmes par an. Si on ouvre le droit à la congélation d'ovocytes pour toutes les femmes, c'est un droit qui va concerner beaucoup plus de femmes. Et donc la question, évidemment, de la prise en charge financière est loin d'être négligeable. Et je dirais que je n'ai pas encore totalement une doctrine définitive sur le sujet de la congélation d'ovocytes pour les femmes, qui est évidemment une liberté supplémentaire face à la diminution de la fertilité après 35 ans. Et donc c'est évidemment une liberté de se marier plus tard, de faire des enfants plus tard. À la fois, si on le voit comme un droit ouvert à toutes les femmes, on peut imaginer que ça devienne une mode comportementale, c'est-à-dire que toutes les jeunes femmes entre 25 et 30 ans pourraient avoir envie de congeler leurs ovocytes au cas où. Et donc il faut qu'on trouve le bon équilibre, cette ligne de crête entre des femmes qui réellement sont dans une situation où elles n'ont pas encore de trouver de conjoint, elles ne se sont pas inscrites dans une vie qui leur permette de se projeter comme mère, et ne pas tomber justement dans un excès inverse qui serait un droit ouvert à toutes les femmes de France à n'importe quel âge, parce que je crois là que ce serait aussi une dérive sociétale.
Un point sur l'histoire du financement et du remboursement, parce que effectivement, vous allez bien comprendre que en proposant pour les couples hétérosexuels une participation au bout d'un certain nombre de tentatives, du coup j'ouvre la porte aussi à une participation dans les cas qui ne sont pas strictement médicaux et qui posent des problèmes en disant bah, est-ce qu'on faut qu'on rembourse par la sécu alors que c'est pas médical, et quid de la chirurgie plastique qui n'est pas remboursée, est-ce qu'il faut qu'on y participe, et peut-être que la notion d'une participation dans ces situations-là est peut-être intéressante.
Oui, permet d'apaiser le débat.
Permet un peu d'apaiser le débat. Et puis aussi, parce que votre souci, je le partage, sauf que je me rends compte dans ma pratique médicale que, d'abord, heureusement, peut-être, c'est pas si simple que ça, que de congeler ses ovocytes. C'est quand même une démarche lourde. Et que ce qu'il faut dans tout ça, et dans toutes ces, peut-être ces extensions dont on parle, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut remettre à l'ordre du jour l'accompagnement. Parce que, effectivement, il y a des phénomènes de mode, il y a des phénomènes de demande qui ne sont pas réalisés une fois qu'on a ouvert la porte et donné le numéro de téléphone. Je pense qu'il faut un accompagnement. Et que le rôle des médecins est très important. Il n'est pas pour juger, il est pour définir. Attendez, ça marche pas à tous les coups. C'est compliqué. C'est quelque chose que vous pourrez pas avoir jusqu'à 120 ans. Hein, il faut envisager ça quand même. Là, c'est important aussi. Et d'ailleurs, on le voit en pratique, que la reprise des ovocytes se fasse assez précocement, un âge d'être mère et pas d'être grand-mère. Donc, voilà, il y a tout un phénomène d'accompagnement, donc de personnel formé. Et l'exemple belge est assez intéressant. J'ai appris que pour les femmes seules en particulier, dont pour la majorité, c'est un vrai bonheur même d'avoir un enfant après un don de sperme, ils n'acceptent pas toutes les demandes. Il y a 20 à 25% des demandes, soit pour des problèmes d'équilibre psychologique, soit pour des problèmes de régime social, soit pour des problèmes médicaux qui ne sont pas pris en compte. Donc, la notion d'accompagnement, elle est, à mon sens, capitale.
Absolument. Vous vous rendez compte que vous avez raison, vous avez absolument raison. Il faut que les médecins ou les équipes qui prennent en charge ces femmes soient capables de juger de la légitimité ou de l'opportunité ou du risque autour de la demande faite. Mais, et c'est compliqué, on touche là l'arbitraire du jugement d'un médecin. Et c'est...
Non, il est là juste pour aider. Après, la femme, comme toujours, elle le prend pas.
Et donc, si la question de l'encadrement est posée dans la loi. C'est-à-dire que la question que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est tous ces droits sont évidemment des possibilités offertes, mais il faut aussi que les équipes médicales aient la possibilité de refuser.
Et donc, voilà. cet
encadrement-là, et le définir dans une loi est très compliqué. Et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui.
Alors, il y a la loi. Et puis il y a la pratique médicale, et puis il y a enfin, l'audit, l'enquête, enfin comment on pratique. Mais à l'inverse, franchement, je ne vois pas au nom de quoi, à partir du moment où il y a l'information est donnée, une bonne information, hein, que ça marche pas à tous les coups, que c'est compliqué, que ça coûte de l'argent, qu'il faut participer, enfin patati patata, au nom de quoi on peut interdire à une femme de conserver ses ovocytes. Franchement, ça c'est quelque chose qui franchement me dépasse.
Non, mais c'est, vous avez raison, la question n'est pas d'interdire à une femme de conserver.
Ah, ça c'est autre chose, de dessiner du positif et de l'accompagner avec certaines guidelines, certaines limites.
Oui. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention dans la façon dont nous rédigeons la loi, de ne pas ouvrir la porte à une forme de phénomène de mode. On le voit bien à quel point aujourd'hui vous avez... une forme de mode à l'accès à la chirurgie esthétique pour certaines femmes jeunes, des familles qui offrent des seins à 18 ans, ce sont des réalités. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas modifier les comportements sociétaux et donc à, effectivement, dans la loi, expliquer qu'il y a forcément un encadrement et une possibilité de refus d'une équipe, par exemple, parce que ça n'est pas un droit envers et contre tout.
Dans le cadre de la médecine anténatale, les centres pluridisciplinaires, dans tous les cas où il y a question sur l'avenir de l'enfant qui sont discutés dans ces centres, il y a à peu près, en France, il y a à peu près 300 à 400 refus des centres pluridisciplinaires d'accéder à une demande d'interruption. Et à l'inverse, il y a des accords des centres qui sont refusés par les parents. Et cet espace de liberté est fondamental.
Absolument.
Il n'est pas assez connu.
Absolument.
Il n'est pas assez connu. Oui. Mais c'est une des conséquences intéressantes de la loi du diagnostic anténatal. Sur l'histoire du don, en général, et des origines. D'abord, j'ai envie de profiter de l'occasion de rendre hommage à Georges David, qui est décédé, comme vous le savez, il y a peu de temps, et qui était le créateur des SECOS, c'est-à-dire des banques de sperme, avec, à l'époque, un anonymat qui était imposé, qui dure encore, mais qui pose question. Mmh. Et vous évoquez donc une possibilité de remonter aux origines. Et je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez un peu le système anglais qui, moi, me satisfait pas mal? Parce que, finalement, le couple est toujours libre de dire ou de pas dire le mode de conception de l'enfant, quel qu'il soit d'ailleurs. L'enfant à 18 ans peut ou ne peut pas essayer de remonter à l'origine du donneur qui, lui, a dû donner son identité lorsqu'il s'est passé 18 ans ou 20 ans plus tôt. Par contre, je rajouterais bien la liberté du donneur de poursuivre dans cette levée d'anonymat ou de ne pas le poursuivre. Alors, des libertés pour chaque participant. Voilà, alors, ça c'est ma position, mais je vous écoute.
Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on maintient l'anonymat du donneur au moment du don. C'est-à-dire qu'il est hors de question que les familles qui reçoivent un don de gamètes, quel qu'il soit, aient accès aux origines du donneur de gamètes, à ses caractéristiques, parce que nous maintenons cette règle aujourd'hui qu'on ne choisit pas le donneur. Ce qui est discuté dans la loi, c'est qu'un enfant à l'âge de sa majorité, s'il souhaite pouvoir construire son identité et si on l'a informé qu'il est né grâce à un don de gamètes, puisse à un moment donné accéder à la personne qui a donné les gamètes. C'est la loi anglaise qui le permet. Elle ne laisse pas le choix au donneur de gamètes. La loi anglaise fait que tous les donneurs, à partir du moment où ils donnent, savent qu'ils vont pouvoir être recontactés lorsque l'enfant aura 18 ans. L'autre possibilité, donc dans les rapports des différentes instances sur la loi de bioéthique, les deux possibilités restent ouvertes et sont discutées. L'autre possibilité, c'est que le donneur, au moment du don de gamètes, dit doit donner son accord ou pas pour pouvoir être recontacté à l'âge de 18 ans. En réalité, ce que je pense, c'est que tout ça est un faux débat. Pourquoi ? Parce que on s'adresse à des enfants qui vont être conçus à partir de 2020, puisque la loi sera votée en 2019, qui auront 18 ans en 2038. Or, nous savons qu'en 2038, avec les banques de génétique, en réalité, il sera très facile, d'une façon ou d'une autre, de retrouver la personne qui vous a conçu. C'est déjà le cas aux États-Unis, on le sait, avec un certain nombre de banques de données génétiques qui sont offertes par des sociétés privées quand les gens veulent accéder à leurs origines. Et on voit déjà que certaines personnes ont retrouvé leur géniteur simplement en mettant leur ADN et leurs caractéristiques sur Internet et en trouvant un match, enfin une correspondance entre ce qui existe dans une banque de données et leur propre ADN. Donc, en réalité, cette accessibilité aux donneurs, elle commence déjà à exister en 2018, alors que les banques de génétique sont très peu développées. Moi, je pense qu'en 2038, ce sera un faux débat. C'est-à-dire que si on veut trouver son géniteur, on y arrivera.
C'est vrai dans cette démarche-là. Il n'empêche que, pour le géniteur ou la génitrice, c'est peut-être important de lui laisser, même s'il est contacté, la liberté et non pas l'obligation de répondre à la demande.
Oui, alors, de toute façon, il faut déjà acter que ça ne donne aucun droit à l'enfant. Enfin, l'enfant n'a aucun droit vis-à-vis du géniteur, ça ne donne aucun lien juridique, c'est vraiment le strict contact qu'on autorise. Je crois que tout cela fera l'objet du débat, justement, de savoir si le donneur de gamètes donne l'autorisation ou pas d'être recontacté quand l'enfant a 18 ans. C'est le cas dans certains pays qui ont choisi de laisser le choix aux donneurs de gamètes. En Angleterre, ils ont fait le choix d'obliger tous les donneurs de gamètes par souci d'équité vis-à-vis de l'enfant. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que les parents pourraient choisir un donneur qui n'autorise pas l'accès à l'identité. C'est-à-dire que certains enfants nés par PMA pourront accéder à leur donneur ou pas, selon le choix des parents. Et ça me pose un problème d'égalité face à la technique. Donc, je crois que tout ça fera encore l'objet de longs débats au Parlement. Et j'entends évidemment cette question du choix du donneur. Mais je pense qu'en réalité, en 2038, tout cela sera obsolète par rapport à la technologie ambiante.
En tous les cas, je crois que nous sommes au cœur des interrogations d'aujourd'hui. Alors l'avenir, il est dans la PMA, bien entendu, mais il est aussi dans le programme santé que vous avez développé, Ma Santé en 2022. Nous avons très peu de temps. Je voudrais juste vous poser, d'abord dire à nos auditeurs que je les invite à lire le programme et pas parler dans le vide, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui méritent d'être travaillées, bien entendu, comme toujours. Il y a des directions. Par exemple, moi, j'ai trouvé, si vous voulez, que de partir d'un territoire de santé, ça faisait longtemps que j'attendais cette approche, non pas de l'offre qui existe, mais de partir de la demande. C'est-à-dire, on définit une population, et dans une population donnée, qu'est-ce qu'il faut pour répondre aux besoins d'urgence, aux besoins de proximité, etc., etc. Donc, j'ai trouvé que cette démarche est très intéressante, la volonté de décloisonner aussi public, hôpital et ville. Alors, avoir les modalités, bien entendu, sans déstructurer l'un et l'autre. Mais tout ça est extrêmement intéressant. Juste la question, c'est comment vont se définir les territoires de santé, ce que vous appelez les communautés territoriales de santé qui sont la base.
Peut-être, avant de répondre précisément à votre question, je souhaite juste parler de la philosophie de cette réforme. C'est une réforme globale du système de santé qui part du constat que nos concitoyens n'ont plus accès aujourd'hui à la médecine de façon homogène sur le territoire. Ils ont de très grandes difficultés. Il y a une très grande hétérogénéité d'accessibilité et que donc le service que la communauté médicale au sens large, quand je dis médicale, c'est du système de santé. Je parle aussi des infirmières, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des sages-femmes. Que cet accès à la santé, ce service que nous devons à notre concitoyen n'est plus au rendez-vous. Et donc, il était impératif de répondre aux besoins de la société française qui est d'accéder à une médecine de qualité partout sur le territoire et à une médecine décloisonnée. Car en réalité, aujourd'hui, nous avons besoin de tous les professionnels sur le territoire. D'où l'idée de structurer le territoire en communautés professionnelles territoriales de santé, qui comprennent ces communautés, tous les professionnels de santé qui interviennent dans un bassin de vie. Et quand je dis tous, c'est vraiment les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes, les kinésithérapeutes et tous les autres, et les médecins évidemment, et pour qu'ils s'organisent au mieux pour répondre aux besoins de santé d'une population dans un bassin de vie. Alors, ces bassins de vie vont être définis par les communautés elles-mêmes et les ARS, les agences régionales de santé, qui connaissent très bien leur territoire, qui connaissent très bien l'offre de soins par bassin de vie, puisqu'il y a déjà ce qu'on appelle le zonage, qui permet de savoir le nombre de médecins généralistes, le nombre de médecins spécialistes. Donc tout ça est bien connu. Et il est évident qu'on ne peut pas organiser de la même façon tous les territoires, car certains sont très riches en offres de santé libérales, d'autres ont des hôpitaux de proximité, mais très peu de médecins spécialistes libéraux. Et donc il faut qu'à chaque territoire, on trouve une organisation qui corresponde en fait à la réalité, à la fois des besoins de la société et à la fois à l'existant, parce que on ne va pas évidemment supprimer des hôpitaux lorsqu'ils existent ou obliger des médecins à aller s'installer dans des territoires où ils ne souhaitent pas s'installer. En tous les cas, c'est la décision que nous avons prise aujourd'hui de ne pas avoir une installation coercitive, mais une installation voulue, incitative. Choisie et incitative. Et on se rend compte que pour que cette installation fonctionne et que les médecins aient envie aujourd'hui d'aller dans certains territoires, ce qui fonctionne, c'est le travail en groupe. Ce que les jeunes médecins souhaitent aujourd'hui, c'est un travail qu'on appelle pluriprofessionnel, c'est-à-dire en maison de santé ou en centre de santé, où travaillent ensemble des infirmières, des médecins, des pharmaciens, voilà. Et tous les professionnels de santé, en fait, se mettent autour d'une table pour essayer de rendre le service de qualité auquel a le droit la population. C'est ça l'idée de la communauté professionnelle territoriale de santé. Et puis, nous allons renforcer ce qu'on appelle les hôpitaux de proximité, qui sont aujourd'hui des petits hôpitaux locaux, qui ont du mal à recruter des médecins, à faire tourner leur plateau technique, la chirurgie. On voit bien que leur activité baisse. Ils sont assez peu attractifs et nous allons essayer de redonner une nouvelle vie à ces hôpitaux de proximité en les recentrant sur...
L'avant et après.
Oui, l'avant et l'après, c'est-à-dire la médecine polyvalente ou les soins de suite, c'est-à-dire la réadaptation après une hospitalisation, par exemple, la gériatrie, des équipes mobiles de gériatrie, de douleurs, de soins palliatifs, et puis avec un plateau technique de première nécessité, de la radiologie, de la biologie, qui permettent une première ligne de soins pour la population sans offrir un panel immense de disciplines auxquelles aujourd'hui ces hôpitaux locaux ne sont plus, je dirais, attractifs pour les professionnels.
Donc vaste réforme qui a au moins 10 points d'objectif pour 2022 avec la création d'un comité de pilotage que vous allez présider pour essayer de suivre donc quasiment au jour le jour ou presque la mise en place de toutes ces mesures dans laquelle encore une fois bien sûr qu'il y a comme dans tout débat des points de vue qui peuvent être différents mais il y a des orientations et vraiment si cette émission peut toucher quelques médecins ou personnels de santé c'est de les inviter à lire et à participer à cette élaboration. Nous sommes dans un cadre de société participative jusqu'à preuve du contraire.
Merci beaucoup.
Voilà, merci pour votre venue. Madame la ministre Agnès Buzyn, c'est avec le partenariat du Quotidien du Médecin, grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, que nous avons participé à cette émission ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet franceculture.fr, la réécouter autant que vous le souhaitez, vous inscrire sur le podcast pour une écoute à la carte. Demain, vous serez en compagnie de Dominique Rousset qui reçoit Patrick Savidan.